Écoute, ça te dit quelque chose? Tu l'as forcément déjà entendu sur Canal B. Trust in me. Lorsque ses premiers albums sont arrivés, ce fut une fontaine de sons cristallins, envoûtants, l'expression parfaite de la féminité venant du lointain Est. Sushila Raman, anglaise d'origine indienne, non contente d'être belle et d'avoir du talent, fait les rencontres qu'il faut, notamment Sam Mills, guitariste anglais prince de la mélodie, qui lui donnera le son. Un mélange de musique traditionnelle tamoule et de pop anglaise léchée. Sur scène, c'est une vraie showwoman qui donne le meilleur. Le retour de Sushila Raman on stage annonce un nouvel album qu'elle viendra présenter samedi 20 novembre à l'Ubu avec June et Lula en première partie. Ce serait faute de louper ça. 20h, 10-17 euros.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Château Merdique, une première pour nous, nouvelle émission sur Canal B 94 MHz. On va vous présenter rapidement le concept de l'émission. Rapidement, il y aura 20 minutes d'actu de diverses sorties musicales du moment. Ensuite, on fera un petit focus sur une spéciale, ça peut être de la BO, de la No Wave... ou autre, hein, de la techno.
Oui, une année, un artiste, un thème.
Voilà. Et puis, on finira sur 15 minutes, 20 minutes de mix, de live ou un invité qui fera une petite performance en direct. Le calendrier a voulu que la première émission soit dédiée à Guillaume Kosmiki pour la sortie de son livre Free Party, une histoire des histoires. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et en spécial guest, Amandine, présidente de l'association La Goutte d'eau.
Bonsoir.
Voilà, les choses étant dites. Et puis notre ami...
Georges à la technique.
Ouais.
Bonsoir.
Voilà. On va commencer de suite dans le vif du sujet avec un morceau... de Scorpion Violente sur Avant Records. Uberschleiß.
We'll be right back.
in a grave. Lord can hold my body down.
My body down.
Oh, my body down.
In a grave.
Hold my body down.
Lord can hold.
Oh, my body down.
My body down.
Oh, my body down.
When they come in.
Hold my body down.
Watch your sound.
Hold my body down.
Lord, I get up, Lord.
Hold my body down.
And walk around.
Hold my body down.
Ain't no grave.
Hold my body down.
Walking home.
Hold my body down.
My body down.
Hold my body down.
My body down.
Hold my body down.
My body down.
Hold my body down.
Can't no breathe.
Hold my body down.
Lord can hold.
Hold my body down.
My body down.
Hold my body down.
When they're trumping.
Hold my body down.
God's your sound.
Hold my body down.
Won't I get up, Lord?
Hold my
walk around.
Hold my body down.
Can't no breathe.
Hold my body down.
Walking home.
Hold my body down.
My body down.
Hold my body down.
My body down.
Hold my body down.
Yeah, me.
Hold my body down.
Can't yeah, breathe.
Hold my body down.
How sweet. Savior.
Hold my body down.
Forever.
Hold my body down.
Like me.
Hold my body down.
When they come in.
Hold my body down.
Don't you sound.
Hold my body down.
Won't I get up, Lord.
Hold my body down.
And walk around.
Hold my body down.
Ain't no grave.
Hold my body down.
Walking home.
C'était Robert Johnson, All My Body Down, sur la compile Binir All My Day, sortie sur Mississippi Records. Donc Mississippi Records qui sort beaucoup de compile country, bluegrass. Ils ont sorti une petite palanquée, 5-6, quelque chose comme ça.
Oh oui, au moins, ouais.
Et voilà, des superbes compiles pour redécouvrir cette musique américaine. Ça a été enregistré dans les années 60 pour la plupart. Dans le cru, hein, on peut dire, c'est vraiment, ils sont pas allés voir des artistes professionnels et c'était vraiment les gens dans leur ferme, dans les différentes campagnes de là-bas. Voilà. Et avant, c'était Scorpion Violente, le morceau Überschleiß sur Avant Records. C'est donc Scorpion Violente de la Grande Triple Alliance de l'Est. Après, on va écouter un morceau de hip-hop bizarre. Express Yo-Yo Dieting, le morceau s'appelle Bubble Sug, donc c'est vraiment du hip-hop très étrange sur Weird Record Rex.
Thank you. Hallways, monkey colonies, with share life, eyes, eyes, Austrian cinemas, Chibanon, eyes, eyes. Hungrows, monkey colonies, with share life, eyes, eyes, Austrian cinemas, Chibanon, eyes, eyes. Hungrows, monkey colonies, break, share life, eyes, eyes, Austrian cinemas, Chibanon, eyes, eyes.
On a écouté précédemment Exprès Yo-Yo Dieting sur Wet Forest Records et puis à l'instant 1997 Zeta Reticuli, Shannon Eyes. Que dire de plus ? Rien.
sur Troyum Troy,
ouais, voilà.
Non, c'était hip-hop un peu trafiqué. Le mec, il utilise plein de cassettes avec, je sais pas si vous aurez reconnu des samples avant. Voilà, sinon, là, c'était 1997 EV.
Sur Hume Roy. On enchaîne avec une Various d'un, tiré d'un film. C'est Auto or Up with Dead People, une bande originale. Et on va écouter Pandas of Black Metal, Kill Your Gods. C'était la BO de Otto. On enchaîne de suite dans le vif du sujet avec Guillaume Kosmicki pour son livre Free Party, une histoire des histoires.
Bonsoir, rebonsoir.
Rebonsoir Guillaume. On va commencer assez rapidement hein, de toute manière en te présentant vite fait. On va éviter d'aborder ton parcours universitaire, chose qui a déjà été faite maintes et maintes fois, je crois.
Tout le monde ne le sait pas.
Ouais, mais bon, c'est un peu chiant les parcours universitaires, non ?
Ouais, mais ça pète un peu, c'est
vas-y,
cool.
Vas-y, allez Guillaume.
Bah, sans faire le parcours universitaire, c'est vrai que quand même, si je me suis intéressé d'un point de vue un peu littéraire et d'un point de vue un peu analytique à ce mouvement Free Party, c'est vrai que quand même... C'est dû à l'université, quand même.
Quand même.
Donc il faut quand même dire, c'est vrai que j'ai commencé à aborder la rave, la fête en tant que teufeur, mais que très très rapidement, mon parcours universitaire, puisqu'il en est question, m'a fait suivre un chemin parallèle là-dedans, aussi avec un regard un peu plus, on va dire, observateur, analytique et conservateur de certaines informations, quoi, peut-être un peu emmagasiné des éléments. Mais c'est pas du tout un bouquin universitaire.
On est d'accord, on est d'accord. Ouais. Un parcours atypique en tant qu'universitaire pour dévier vers la Free Party, tu vas peut-être nous parler plutôt de ton parcours au sein de la Free Party toi-même.
Et difficile de séparer les deux parce que en fait si je me suis intéressé aussi à cette musique d'un point de vue de la pratique, d'un point de vue de la musique, c'est aussi pour voir comment ça se faisait. C'était donc aussi d'un point de vue universitaire à la base, même si j'y ai pris du plaisir. Donc c'est difficile à séparer les deux.
Ouais, hein, dissocié la chose finalement.
Ben ne soyons pas schizophrènes en fait. Hein, bon, je veux dire c'est.
Ou pas.
Les deux se sont fait en même temps, donc voilà, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que dans cette free party, au-delà d'observateur, j'ai aussi été musicien. Bon ben, aux
acteurs et participants.
96. Acteur, ça veut dire ouais, activiste, tu penses
ouais,
à quelque
par
chose
exemple,
comme ça.
Ouais.
Activiste, ça s'est présenté par la force des choses, on va dire un petit peu. C'est-à-dire qu'en 98, 99, j'ai rencontré Marco et on a beaucoup sympathisé. C'était un peu la fin du site Cagnard et il avait besoin de quelqu'un qui rentre dans.
Qui est Marco ?
Alors Marco, il tenait le site Cagnard, qui était un des gros sites internet sur le sujet depuis 95 et il était un peu en recherche de bon d'un quelqu'un qui rentrerait dans l'art un petit peu critique, un petit peu avec un regard un peu acerbe et éventuellement qui propose des solutions. Il avait besoin de quelqu'un qui avait pas peur de dire un peu du mal des fêtes qu'il fréquentait. Et eux, on s'est bien trouvé là-dessus parce que moi, ça m'amusait aussi de déployer une sorte de prose assez critique,
acerbe.
Ouais. Maintenant, quand je regarde ça, c'est pas que je regrette. Je regretterai pas, mais je pense plus la même chose. Je le penserai plus pareil. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait dans cette idée de faire ça. Ça a été un peu le premier acte dans ce sens d'investissement. Mais très rapidement, bah, juste un peu après. Quoi, 2 ans après, c'est la loi qui est arrivée par là. Ouais. Et moi, j'avais déjà, on va dire, à ce moment-là, quitter l'intérêt énorme que j'avais pu avoir pour ces fêtes-là. J'avais quitté un peu la passion qui m'avait animé là-dedans. Et par la force des choses, bon, en fait, il fallait des représentants, il fallait des gens pour aller rencontrer les politiques. Moi, je me posais beaucoup de questions. J'étais vraiment pas sûr que ce soit une bonne solution. Mais c'est vrai que dans le sud de la France où j'habitais, ben, les sound systems m'avaient un peu demandé d'aller participer à ces premières rencontres. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai été activiste, mais on va dire un peu par la
force des choses,
par les événements qui sont enchaînés, quoi, tout simplement. C'était c'était.
On reviendra un peu là-dessus plus tard au cours de l'émission. Robin,
oui,
Bob, tu nous as choisi un petit morceau.
Oui, parce que je crois que ton livre traite surtout de la free party quand même en France, en Europe, pour élargir un peu. Peut-être tu nous parleras des origines après ce morceau. Ça, on peut dire que c'est vraiment un morceau qui était vraiment dans le style originel de la rave en Angleterre. Donc c'est Chromé Time, The Slammer. C'est juste avant la naissance de la jungle, ou même la naissance de la jungle en 93. Voilà, c'était Chromé Time, The Slammer, donc un morceau typique du son rave anglais du début 90. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette transition en fait entre son anglais qui était limite qui était très proche, enfin voilà, qui était précurseur de la jungle, et comment après on en est venu à la free party techno qu'on a connue, et notamment qu'on a connue beaucoup en France et en Bretagne, voilà, où le son était beaucoup plus techno, hard techno.
Alors là, on fait un gros saut dans les années.
Énorme saut.
Ouais, on fait un gros saut dans les années. En fait, les Anglais, ils parlaient déjà, même avec ces musiques-là qu'on vient d'entendre, ils parlaient déjà parfois, souvent même de free party. Ils parlaient de rave music. Ils parlaient de rave music avec la house aussi, avec d'autres musiques que celle-là. Free, ils ont employé ça tout simplement parce que c'est une fête libre, tout
gratuite.
Simplement une fête libre gratuite. C'était un peu secondaire. C'était pas forcément
c'était
le
surtout
le
libre.
Surtout libre avant toute chose. La traduction au début, ils se sont un petit peu loupés. Ils le disent assez fréquemment, d'ailleurs, pour les citer, les Spiral Tribe, mais c'est pas le seul sound system anglais qui soit venu comme ça en France et en Europe. Mais ils parlaient de Free Party depuis déjà un petit moment. Déjà, à la fin des années 80, c'était un terme qu'on utilisait fréquemment. Comment c'est arrivé, on va dire, en France? Tu me demandais, Robin, comment c'est arrivé, en fait, comment ça c'est arrivé jusqu'en Bretagne, puisqu'on parle de la Bretagne.
Oui, voilà.
Et comment le son a changé? Bah, simplement, c'était des pratiques qui étaient assez alternatives, on va dire assez radicales. Et à un moment où ces pratiques qui se développaient dans la clandestinité en Angleterre, puis qui se sont développées de même manière, un peu plus timidement en France, progressivement par la venue de certains Français qui avaient découvert ça en Angleterre, mais aussi par la venue un petit peu plus massive d'Anglais qui amenaient ça aussi de là-bas. Il y a eu une séparation entre des gens qui tendaient à chercher à légaliser un peu la chose, à la rendre un peu plus officielle, et puis des gens qui, au contraire, trouvaient ça très bien de le faire de manière clandestine et alternative. Et la radicalité, elle va souvent de pair avec une musique un peu plus dure, un peu plus costaud. C'est une manière aussi d'affirmer cette radicalité, et c'est pour ça que rapidement, y compris même des Anglais qui jouaient ces musiques-là en Angleterre, y compris eux, notamment avec le label Network 23 par exemple, hein, parmi d'autres exemples, se sont mis aussi à faire une musique plus dure, plus core en général, et à employer donc à trouver ces musiques voilà plus techno, hardcore, dans la free party. Il y avait des musiques dures à côté aussi, hein, dans les raves. Il y avait des raves hardcore très 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 importantes qui se faisaient aussi à côté.
Et au niveau du pourquoi les Anglais ont filé vers la France, c'était dans les années 90.
Ben, on a parlé tout à l'heure de la loi française qui arrive en 2001. Nous, effectivement, on arrivait après au niveau de la musique, puis au niveau de la loi aussi. Les Anglais, ils ont eu leur loi avant. Donc leur loi, elle est arrivée en 94, c'était le Criminal Justice Act. Il y avait déjà eu d'autres lois, d'autres amendements de différentes lois sous le gouvernement Thatcher qui bloquaient certaines libertés, mais la loi véritablement anti-rave en Angleterre, c'est 94, avec différents points bien précis sur le sujet, avec l'introduction, en fait, là c'est formalisé comme ça, de se rassembler sur des musiques répétitives, tout simplement, et d'ailleurs, tout ce qui amenait à se rassembler là-dessus, tout ce qui était mis en place pour se rassembler là-dessus aussi était interdit, c'est-à-dire passer un coup de fil à un copain ou donner un prospectus, ou tout cela aussi était passible d'amende, de prison, etc. Et c'est la loi anglaise qui présente ça comme ça en 94. Ça a donné, ça commençait déjà avant, mais ça a donné une belle arrivée de sound system anglais en Europe et en France, puisque c'est le plus près, hein, déjà dans un premier temps.
Et justement, en parlant d'Angleterre, on va filer avec Desert Storm un extrait d'un live. There's something out there. That witch in the cellar is only part of it. It lives out in those woods. In the dark. Groovy.
Thank you. in the cellar is only part of it. It lives out in those woods, in the dark.
C'est donc Erzak 23 sur Drop Bass Network. Erzak 23, un projet qui réunissait deux artistes connus sous le nom de 69DB et Crystal Distortion, des artistes majeurs de la scène art techno en France et au-delà.
Et de la Spiral Tribe.
Alors justement, Guillaume, une petite question. Est-ce qu'on peut vraiment parler de la Free Party sans évoquer le nom de Spiral Tribe? T'as commencé un peu ton bouquin avec les spirales. Est-ce qu'on peut les émincer comme ça de l'histoire de la Free Party? Parce que tout le monde en parle, en fait.
Mais en fait, c'est quand même sacrément difficile, dans le sens où c'est pas le seul sound system anglais qui est bougé d'Angleterre et qui a amené la Free ailleurs en Europe, en France notamment. Mais c'est celui qui a pris le statut le plus mythique pour différentes raisons. Debbie, hein, qui fait partie de la Spiral Tribe, c'est qu'ils se sont trouvés au bon endroit au bon moment. Elle voit ça comme quelque chose de quasiment mystique. En vérité, même en Angleterre, c'était pas le premier sound system Traveler. C'était pas le Sound System qui organisait des free parties, loin de là. Mais c'est vrai que même là, ils ont bénéficié d'une énorme couverture médiatique malgré eux, parce qu'en 92, à Castle Morton, qui a été un énorme Technival, quasiment le premier véritable gros Technival de l'histoire, eh bien, ils ont été pris comme bouc émissaire par les forces de police, eux et puis quelques artistes de Bedlam, quelques artistes d'autres sound systems, mais ceux-là, en tout cas, ils ont été particulièrement mis en avant par la presse, par les médias, et donc là-bas, déjà, ils ont été très remarqués, et ils n'ont pas réussi, après cet événement en 92, à réorganiser des fêtes là-bas. Ils ont bien essayé, mais finalement, ils se sont dit, on va partir, et c'est parmi les premiers sons à être partis, et comme ils avaient créé une imagerie très forte, des symboles comme le 23, donc qui est un des symboles les plus forts qu'on trouve chez eux, des images très très remarquables, ces fameux bonhommes, ces fameuses mains avec des signes très particuliers, ça a beaucoup aidé aussi à ce qui reste dans les mémoires et à ce qui marque comme ça donc un mouvement qui finalement n'a que très peu de textes fondateurs, n'a que très peu de dessins, de d'albums, parce que c'est pas un mouvement d'album non plus, c'est pas un mouvement avec des pochettes remarquables, et donc ce graphisme et cette forte identité ont permis aussi d'appuyer leur image. En même temps, il faut quand même bien dire qu'ils ont particulièrement été actifs dans les premières années de leur venue en France et dans le reste de l'Europe. Ils le disent eux-mêmes, c'est en France qu'ils ont trouvé un des plus bels échos, c'est pour ça qu'ils y sont restés longtemps, et ça a particulièrement consisté, ça a particulièrement appuyé leur succès et fait que ils ont ce statut mythique et toujours aujourd'hui, ils sont cités comme vraiment le premier son, même si c'est pas le premier qui a amené ça.
On est d'accord. Du coup, c'était un peu inévitable de commencer ton bouquin par là, quoi.
Absolument. Je pense que c'était inévitable. Moi, j'aurais souhaité le commencer. Ça se fait pas pour un ouvrage. Le commencer par ma chronologie. Il y a une chronologie, mais qui se trouve à la fin de l'ouvrage, comme de coutume. Et cette chronologie, en fait, je la fais commencer dans les années 70 avec le mouvement Traveler. Ouais. Parce que le mouvement Traveler, c'est pas du tout eux qui l'ont inventé. C'est un mouvement qui vient des mouvements de contestation des années 60, du mouvement hippie et autres, et qui a rejoint aussi le mouvement punk, qui a rejoint enfin toutes sortes de mouvements de contestation et qui a été là très présent en Angleterre dès les années 70. Donc ce mouvement Traveler, New Age Traveler comme on les appelait, ça a été une des bases de ce mouvement. Mais il y a autre chose, même avant les Spiral Tribe et pendant le mouvement Traveler, durant les années 80, quelque chose qui n'a rien à voir avec le mouvement Traveler, c'était les warehouse parties, les fêtes d'entrepôts, de hangars, etc., qui se sont organisées dès le début des années 80 en Angleterre. Pas du tout sur de la techno, sur du hip-hop, sur du reggae, sur du ragamuffin, beaucoup. Et cette pratique, qui a donné naissance en fait à la rave, cette pratique, elle existait avant la house, avant la rave music, avant toutes ces musiques qui ont donné naissance, enfin qui ont été les bases, les sous-bassements du mouvement techno. Donc en fait, avant Spiral, il y avait plein d'autres éléments qui ont contribué à ce mouvement si particulier.
On est d'accord. Du coup, t'as choisi d'aborder plutôt ton bouquin sous l'angle de témoignage plutôt que sous l'aspect historique un peu facile de la musique aussi, quoi.
Facile, ça aurait peut-être pas été facile d'écrire une histoire, on va dire magistrale avec un seul auteur, écrire voilà la free party, c'est ça. Peut-être un peu pauvre aussi, un peu spécial, un peu bizarre à lire aussi. C'est mon éditeur en fait, hein, pour bien dire les choses, qui m'a tout de suite proposé de m'intéresser en fait à ce mouvement du point de vue du témoignage. Il m'a dit, on a la chance, bon, lui il était assez surpris de voir un mouvement qui durait aussi longtemps, une vingtaine d'années, avec une même utopie qui se transmet, y compris dans les plus jeunes qui sont actuellement actifs dans ce mouvement-là. Ça l'a beaucoup intéressé. Et il m'a dit, on a la chance d'avoir tous les témoins qui sont vivants, qui sont là, qui sont prêts à en parler. En fait, il m'a demandé de faire quelque chose sur cette base-là. Et il m'a demandé d'aller rencontrer des gens. Lui comme moi, on pensait pas en rencontrer autant. Il se trouve qu'il y en a plus de 40 dans l'ouvrage. Et en fait, ce que je peux dire, c'est que d'ailleurs sur les 40, j'en ai choisi qui sont pour moi extrêmement représentatifs, très importants. J'ai fait exprès aussi de choisir des gens qui ne sont pas connus, des anonymes, des gens qui font pas forcément de la musique, qui font du chill out, enfin plein de cas différents. Mais j'aurais pu faire le même bouquin avec autant de pages, on va dire, autant de d'informations aussi, je l'espère, intéressantes, je l'espère, avec des personnes totalement différentes. Mais c'est vrai qu'on s'est basé uniquement quasiment sur le témoignage.
C'est pour ça que ton livre s'appelle Free Party, une histoire, des histoires.
Bien vu.
Tout à fait.
Voilà. On va s'écouter. Je sais pas ouais. Si on avait cité beaucoup le titre du livre,
ah,
en
si,
fait.
Je crois qu'on l'avait cité au moins 3-4
fois. Je suis pas sûr.
Si, Robin.
Non, mais c'est sûr, c'est comme ça.
C'est bien de le rappeler.
Si, ça a été
prévu
comme ça.
C'est une bonne chose.
On va s'écouter Nout du Sound System Hérétique, Cavalier du Vice. Nout du Sound System Hérétique. Alors Guillaume, tu nous as choisi un petit extrait de tes interviews.
Oui, effectivement. Alors, comme le rappelait Robin, une histoire des histoires, c'est vraiment constitué d'un entrelacs de témoignages. Je me suis fait un grand plaisir de croiser en fait dans ces 42 témoins qui sont pris sur les 20 années de l'histoire de la Free Party. Je me suis fait un plaisir de retrouver finalement dans les témoignages très divers pris à différents moments, de retrouver des croisements, des situations où les témoins se trouvaient au même endroit à des moments voilà où, parfois sans se connaître, parfois en pensant des choses totalement différentes, totalement opposées. Par exemple, c'était le pire moment que j'ai vécu, un autre dit que c'était le plus merveilleux, et c'est ce qui m'a particulièrement intéressé, donc de croiser ces témoignages. J'ai ramené un petit extrait justement de ces témoignages. On va entendre Gino, Josie et Vincent, qui sont des musiciens puis aussi des organisateurs de Technival. Des vieux de la vieille, hein, on peut le dire, c'est vrai. Justement sur l'organisation d'un Technival qui est le Technival de Vitry-le François en 96, et c'est un petit montage sur leur voix qui sont très caractéristiques, malheureusement, qui sont pas dans le livre.
Il y a eu Vitry-le-François. Vitry-le-François, on va là-bas, on repère ça avec Josie. Et on a trouvé, en bordure d'un bois, cette prairie. Mais il y avait un fossé.
Ouais. Ouais,
il y avait un fossé. Ouais, pas de problème, un fossé comme ça, tu te dis, ouais, quatre pelletées de terre. On était que deux, moi et Sniff, qui est avec moi maintenant. Hein. Et donc, on était planqués là depuis la veille, nous. Et au dernier moment... Entre-temps, on s'était mis une bouteille de pastis, une bouteille de tequila. Nous voilà tous les deux en train de remplir le fossé. Mais ça fait des heures, ça fait 5 heures qu'on est là et on voit à peine le truc et ça continue. Bah, à la fin, on arrive presque à la fin et là arrive direct de Sarajevo les Desert Storm. Ah là, c'était sauvé, quoi. Les mecs, ils nous ont vus, mais c'est genre, on n'en pouvait plus, quoi. On était les esclaves de ce Technival, du coup, qu'on avait mis en place, mais on n'avait pas pensé à une passerelle. On s'est dit, ouais, on rebouche, ça va le faire, mais ouais. En fait, on était des gars de la ville, nous. Ouais, ouais. Aucune notion de combien de temps pour reboucher un trou, ouais. Tu vois. Et...
Mais Vitry-le-François, c'était un Technival trop génial. Tout est arrivé. Tout. On est arrivé, déjà, on avait laissé Gino avec le voisin. On les avait laissés pendant 3 jours pour pouvoir, tu vois, il y avait un fossé comme ça. Il fallait remplir le fossé pour qu'on puisse arriver sur, tu vois, devant un bois. Ouais. Là, il y avait une grande terre, un grand machin. Terre pleine d'herbe. Au bord d'une forêt. En face d'un champ dans la Marne, tu vois. Donc, grande vue magnifique avec les vallons. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Et on est arrivé là. On arrive, alors déjà on arrive à Vitry-le-François, et puis on va pour faire l'infoline, on passe à la gare, et là il y a des mecs qui viennent nous voir, c'était les Desert Storm, savoir comment ils avaient su, ouais. Que ça allait se passer exactement là, comment ils avaient eu l'info, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien.
C'est les Storm qui nous avaient appelé en disant, vous vous pointez à telle heure le soir à la gare et il y aura des gens qui seront là pour vous attendre.
D'accord. Ils revenaient de Bosnie.
C'est ça, ils revenaient pile de Bosnie.
Pile. Ils arrivaient à Vitry-le-François de Bosnie.
Ils remontaient du sud.
Donc, si tu veux, on tombe sur eux. Alors bon, on esquive les flics. Enfin, il nous arrive quelques aventures dans Vitry-le-François.
Comment ils ont repéré la police? Comment ils savaient que c'était par là et tout ça?
Mais ils savaient pas. Ils nous ont vu des camions.
Peut-être le hasard ou autre chose, on ne sait pas. On n'a jamais
su. Ils ont vu le camion.
Et quand on est arrivé à la gare, il y avait une voiture de police qui était là.
Bah, ils étaient
arrivés à ce moment-là.
Ouais.
Et donc, on arrive. Et là, l'histoire, ils étaient 12.
Ils étaient 12 dans le
comme
camion.
Comme les apôtres.
Et quand on est arrivé, on ne s'est même pas serré la main ni rien. On a dit, montez dans le camion, il y a une voiture de police, on dégage.
Ouais.
On est arrivé sur un rond-point, on était devant avec Josie. Là, je dis à Josie, écoute, on est dans la merde, fais le tour du rond-point, ils pourront pas nous arrêter tant qu'on est dans le rond-point.
Ouais.
Et là, je vois une rue qui partait du rond-point et je vois l'enseigne gendarmerie.
Ah ouais.
Et je dis à Josie, prends cette rue-là. Et juste devant la gendarmerie, je lui dis, tu arrêtes le camion, on se gare. Et là, on a garé tous les véhicules devant la gendarmerie. En fait.
Ouais.
Là, la police, pouf, ils sont partis à toute vitesse.
Et on les a largués, là.
Pourquoi? Et on les a pas revus. Voilà,
parce qu'apparemment, ils s'entendent pas très bien, police et gendarmerie. Hein.
Oui, donc, je sais pas, ça m'est venu dans la tête comme ça. Je me suis dit, tiens.
Bah, c'est pas le même pays.
Je suis sûr que si on se met devant la gendarmerie, ils vont pas nous faire chier. De là, on est allé à pied jusqu'à... Il y avait une fête foraine sur la place plus loin. Josie a téléphoné et là, ils sont partis de Paris.
Et on arrive sur le site. Sur le site, il y avait Gino avec Benoît et tout. Ils étaient en train de se taper dessus. Et rien. Rien de creusé. Rien. Il y avait le trou, tu vois. Rien de fait.
Rien de bouché, ouais.
Rien de bouché, tu vois.
En plus, on avait mis au fait.
Et là, je vais les voir et je leur fais... Il n'y a pas. Il faut en une heure que là, il y ait de la place. Tu vois, les gens arrivent dans une heure maximum. Alors, ils disent... il y a un gars qui a fait un article dans, qui a fait un bel article dans le journal et tout. Et il dit, on a gratté avec des petites cuillères à main nue. Il y avait une petite bonne femme black avec des lunettes qui nous a fait creuser. Allez-y, dig. Et écoute, à la petite cuillère, au pour enfants. C'était hallucinant.
Une assiette.
Oui.
Donc, on était là, on était une vingtaine.
Full vibes. Et donc, au moment où on finit, paf, on voit les premières lueurs, les premiers phares qui arrivent. Là, c'était le bus des spirales qu'il fallait qu'il passe parce qu'il était vachement long. Il est passé, là, grande clameur. Ouais, ça y est, c'est parti.
Les premiers bus qui arrivaient au moment où on terminait.
C'était Manga Corps First Wave. C'était un morceau qu'on peut retrouver sur la compile mixée biomécanique par Manu le Malin. Les biomécaniques, c'est des compiles assez mythiques du hardcore qui sont sortis en France. On a découvert beaucoup de choses là-dessus, et notamment le morceau d'avant, Nasen Bluten, sur Industrial Strength, le label de Lenny D, label américain.
On est toujours sur Château Merdique, Canal B, 94 MHz. Alors, dans le bouquin, tout le monde parle d'un âge d'or, d'années folles, complètement les meilleures années.
Que les moins de 20 ans ne peuvent pas
Par exemple, c'était mieux avant. Alors, Guillaume,
L'âge d'or, en fait, j'aurais tendance à rejoindre ce que dit un illustre sociologue sur le sujet.
Il s'appelle
Lionel Porto,
ouais.
Qui est pas mal décrié dans le mouvement, pour différentes raisons, parce que beaucoup de gens n'aiment pas se voir analyser ou voir des choses posées un petit peu sous la forme de règles. C'est vrai qu'il le présente un peu sous la forme d'une règle, mais je trouve que c'est pas si faux que ça, à savoir... que l'âge d'or, finalement, c'est le plaisir de la découverte, c'est toute l'émotion très forte que l'on a au moment où la chose est très nouvelle pour nous, et que finalement, quand elle devient moins nouvelle, forcément, on est un petit peu blasé, c'est la nature humaine est ainsi faite, et on trouve les choses moins intéressantes. Alors ça, c'est un fait, ça c'est certain. L'âge d'or de chacune des personnes qui a rencontré la Free à telle ou telle époque de sa vie, ça peut être au début des années 90, ça peut être au milieu, ça peut être même à la fin, ça peut être même au début des années 2000, parce qu'il y a des gens qui disent que, il y en a même dans le livre qui disent ça, que leur âge d'or c'est maintenant, pourquoi pas, ça c'est un fait. Mais il est vrai que le mouvement Free Party a largement changé de visage, ça c'est certain.
Notamment
aussi.
Avec cette fameuse loi.
Notamment avec cette fameuse loi, et aussi avant cette fameuse loi, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement de masse, il y a eu quand même un engouement certain pour ce genre de fête. Cet engouement d'ailleurs, c'était pas quelque chose qui a été subi, c'était quelque chose qui a même été provoqué, parce que les Spiral Tribe... par exemple, mais aussi beaucoup d'autres sound systems hérétiques, puisqu'on en a parlé aussi, et beaucoup d'autres, je peux citer des sons du sud, les Metech par exemple, ont diffusé à outrance parfois des flyers d'information, ont diffusé des invitations à leur fête, toujours pour avoir plus de monde, toujours pour avoir plus de personnes, pour faire découvrir à d'autres gens. Mais quelque part, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'à un moment aussi, des gens qui ont rencontré ces valeurs du mouvement qui étaient, on les a pas citées, mais qui étaient quand même largement tournées vers le don, quand même, vers le don de soi, vers l'investissement gratuit, vers la fête pour la fête, la fête pour le plaisir d'organiser cela sans aucune recherche de normalement, de notoriété, à la base c'était ça l'idée du mouvement, sans recherche de gagner des fortunes, sans recherche de gagner les bars étaient à des prix très modiques, les disques aussi se vendaient à des prix très modiques, enfin tout cela c'était vraiment pour faire tourner la fête. Juste l'argent qui était gagné, c'était
make
pour
some
investir.
Fucking noise.
Voilà, c'était pour investir, pour fucking noise, pour refaire du noise ailleurs, pour refaire de la fête ailleurs. Cette valeur qui était très utopique, très positive, très libre dans l'esprit, eh bien, elle a attiré aussi d'autres personnes qui tout de suite ont cerné la possibilité aussi de faire
de
profit,
faire de l'argent,
de gagner aussi en exploitant, pourquoi pas, c'est ce plaisir qui était recherché par les teufeurs. Et les teufeurs eux-mêmes, rapidement aussi, la nature humaine étant ainsi faite, aussi se sont tournés vers ce type de pratique. Donc, il y avait une dégradation, quand même. Il y avait une trahison du modèle de base. Il y a eu quand même ça à un moment. Certains pensent, même parmi les peu radicaux, que la loi a été peut-être une bonne chose.
Ouais.
Parce que la loi, elle a permis aussi... certains le pensent, hein. Moi, je ne prends pas forcément de parti là-dessus, mais je crois que Robin, tu voulais intervenir,
oui.
M'a-t-il semblé.
Non, oui. Bah, c'est intéressant, parce qu'on a l'impression qu'on engage un peu sur l'utopie et l'âge d'or, et direct, on passe à la dégringolade. Ça me fait penser, tu parlais, par exemple, de ce non-star system qui était prôné dans la Free Party. La plupart du temps, on ne voyait pas les DJ. On voyait qu'un mur de son. On ne voyait pas les liveurs.
Ou un filet de camouflage.
Moi, ça me fait poser la question. Tu parles de ce non-profit. Ça me fait poser la question de qu'est-ce que c'était l'argent qui faisait tourner la Free Party Et est-ce que ce nom Star System aussi, c'était possible finalement? Est-ce que on peut se dire que l'humain est capable de produire quelque chose d'artistique sans réclamer un peu les lauriers qui vont avec?
Bah disons que c'est parti. Bah comme toute utopie, il y a un moment où ça marche, c'est-à-dire quand c'est en petit comité, ça peut toujours marcher. Il y a eu des moments où il y a eu l'idéal de la fête a pu se rencontrer, y compris ça peut encore pourquoi pas se rencontrer aujourd'hui, c'est possible même si beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. C'est-à-dire que quand finalement ceux qui sont enclins à rechercher le plus rapidement du profit, à rechercher le plus rapidement peut-être aussi un peu de reconnaissance financière, quand ceux-là sont en nombre vraiment très restreint dans une majorité qui vit du plaisir de cette fête, et il y a eu des moments comme ça je suis sûr que tu les as vécu aussi, toi qui a connu ces fêtes-là, eh bien ça peut passer, c'est-à-dire qu'ils sont très peu nombreux, ils ne prennent pas le dessus sur la masse, mais au moment où tout le monde se tourne vers cette autre vision, et la nature humaine, je le répète, est ainsi faite, les utopies ne peuvent pas fonctionner, c'est l'essence même des utopies, hein, que de ne pas marcher, sinon ce serait pas des utopies, et ben ça ne fonctionne plus forcément.
Mais très clairement, moi je te dirais quelque chose, c'est qu'aujourd'hui ça, j'y crois plus. Enfin, je crois qu'on est dans un, aujourd'hui dans un monde où l'individualisme et le,
tu as tort.
Et la façon de se poser et de s'auto-proclamer en tant qu'artiste, aujourd'hui on le voit très bien, c'est-à-dire que chacun a sa page sur internet, chacun a son nom et son pseudo et son quelque chose, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'anonymat qui était prôné à cette époque-là, qui était vraiment une histoire de mouvement et de son, et que finalement
a disparu.
Les gens étaient cachés derrière le son, derrière les enceintes, et on voyait de la techno, quelque chose qui était familial, qui était un mouvement vraiment, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus trop possible. Moi
je pense qu'on était dans une société aussi dure et aussi difficile à vivre qu'aujourd'hui, hein. Je veux dire que la techno, la rave, elle est née dans le mouvement Thatcher, c'était absolument horrible, hein, ce qui se passait en Angleterre à ce moment-là. C'était la religion du fric, hein, c'était vraiment l'ultra-libéralisme, c'était des choses absolument atroces, et pourtant un mouvement comme ça, une alternative comme ça a réussi à naître de ça. Moi je pense que à n'importe quel moment, dans n'importe quel système, justement, c'est le terreau même des utopies. Une utopie de ce type-là ou d'un autre type, de toute façon, peut toujours surgir. Ça, c'est évident.
De toute façon, je ne paierai pas plus que 15$ pour une teuf.
Je refuse de payer plus de 100 balles pour une teuf. Je refuse de payer plus de 100 balles pour une teuf. Je refuse de payer plus de 100 balles.
Ça semble friquer les flics.
On a écouté Akik, extrait de Cagnard numéro 2, et à l'instant, Même pas mal, un morceau de 2002. Justement, en parlant de Même pas mal, c'est l'occasion rapidement, on y reviendra tout à l'heure, de parler de la soirée de fête de la sortie du bouquin, justement, où Même pas mal jouera. Amandine, tu es présidente de l'asso.
Tout à fait.
Tout à fait. La soirée, c'est le 27 novembre.
Association La Goutte d'eau.
Ah ouais, ouais, j'ai oublié.
Ah oui, il faut le répéter plusieurs fois, c'est comme ça. Le titre du livre.
On en reparlera juste avant un extrait du live de Guillaume. Pour revenir au bouquin, on va parler quand même de choses positives. La Free Party a quand même énormément changé la vie des gens, de ceux qui ont participé, ceux qui ont été, ceux qui y sont encore d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi la Free Party a-t-elle changé la vie des gens ?
Bah, c'est un mouvement quand même de jeunesse, donc qui se situe dans une période charnière d'un passage à l'âge adulte, au moment où les utopies sont les plus fortes, puisqu'on parlait d'utopie, et donc en expérimentant ce genre de situations extrêmes quand même, qui sont très en dehors des modèles sociaux dominants,
on peut le dire,
en dehors du sédentarisme, en dehors du travail quotidien, salarié, imposé par la société, eh bien la jeunesse expérimente des choses particulièrement difficile à rencontrer en suivant les fils ordinairement proposés, scolaires et autres, dans notre société. Et donc, en expérimentant ce genre de pratiques, les différentes personnes qui ont rencontré la Free Party, au moment où ils se sont investis, ont trouvé des choses à en retirer pour finalement leur construction personnelle par la suite, quelle qu'elle soit. Et donc, c'était un des projets importants de l'ouvrage, c'était de voir effectivement comment ça a changé leur vie, comment ça a pu influencer leurs activités actuelles. Il est vrai que dans les personnages que j'interview, il y en a qui sont encore dans la Free Party, donc cela, c'est annexe, c'est autre chose. Mais pour ceux qui ont franchi le cap et négocié autre chose, il y a des tas de situations parfois même très différentes. Certains ont fondé des entreprises, sont même des patrons.
Comment ça?
Absolument.
Allez, on coupe.
D'autres, au contraire, sont partis vraiment sur cette voie alternative, ont continué à travailler sur les, par exemple, la décroissance. Beaucoup sont dans cette idée-là de la décroissance. Ils ont pris dans ces fêtes-là différents éléments qui, pour eux, ont constitué ces bases de la construction de leur parcours actuel. Et chacun, alors moi je prends pas parti sur tel ou tel aspect, même si j'ai ma petite idée, ça c'est autre chose, mais pour chacun, en tout cas, il y a une cohérence dans leurs propos. C'est-à-dire que ceux et celles qui sont devenus patrons, patronnes, expliquent qu'ils ont appris dans la Free Party le do-it-yourself. Ils ont appris à se débrouiller par eux-mêmes, ils n'ont pas voulu être salariés, ils ont voulu fonder un truc, fonder une boîte. Finalement, cette boîte, elle est pour chacun d'entre eux, elle est donc constituée pratiquement que des membres de leur sound system. Donc ils ont appris à vivre ensemble, à organiser des choses ensemble, ils ont appris à travailler ensemble sur différents domaines, et même ils se sont spécialisés, pourquoi pas, dans l'informatique, dans la musique. Certains sont devenus patrons de labels, bookers, managers, donc ils ont continué à travailler dans ces voies-là pour lesquelles ils avaient eu aucune formation, disquaire éventuellement. Et puis bon, voilà, ceux qui ont vu la décroissance là-dedans, ceux qui ont vu l'alternative la plus, encore aujourd'hui, la plus radicale, eux aussi ont trouvé ça dans ces fêtes. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'elles ont été un vivier de très nombreuses possibilités qui sont suivies par ces personnages.
Il y avait un peu une notion de liberté, en fait, quand on arrivait dans ces fêtes, ou quand on arrivait au début, comme on dit, au début c'était toujours mieux, mais on avait l'impression qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses grâce à ça, en fait. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai.
Mais je crois que ça a été le cas pour beaucoup de gens.
Bon, on était surtout tranquille, sans videur, on pouvait
boire.
Quoi,
t'as été en Free Party, Bob?
Mais oui, on y était ensemble cet été, rappelle-toi, on pourra en parler. Non, mais tu parles de ce qui a changé un peu la vie des gens. Est-ce que on peut revenir sur la drogue? C'est quand même une des composantes, voilà, de la.
On reconnaît en toi le journaliste.
TF1.
Oui, la drogue. l'argent, on s'en fout un peu, quoique c'est lié, la drogue et l'argent. Mais moi, je trouve que dans ce qui peut changer, quelqu'un justement qui peut passer un peu d'un âge post-ado à un âge pré-adulte, il y a la drogue. Pour moi, c'est un petit passage qui est assez intéressant, je trouve. Et c'est quoi sa place dans la free party?
Alors c'est vrai que bon, c'est sans généraliser, il y a quelques exceptions, parce que ce sont quand même des exceptions de personnes qui ont fréquenté ces fêtes uniquement pour le plaisir de la fête, pour le plaisir de l'être ensemble, pour le plaisir de cette fête en l'absence de stars, en l'absence donc de règles de scène et de d'éléments qu'on retrouve dans les scènes les plus fréquentes que l'on rencontre. Mais pour la plupart, c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre avec la drogue, et parfois elle a eu aussi effectivement un rôle extrêmement déterminant. Beaucoup de témoins dans ce livre-là,
initiateur, beaucoup en fait.
Voilà, tout à fait. Me parle notamment du LSD, qui est quelque chose qui leur a donné la claque nécessaire pour qu'ils quittent un chemin de vie qui s'était établi à l'avance, qui était parti en fait directement dans le monde du travail, directement dans le monde soit du patronat, soit du salariat. En tout cas, vraiment dans un plan de carrière éventuellement. Et la rencontre avec le LSD et avec ses fêtes et avec cette alternative que présentaient ces fêtes, la drogue a renforcé eh bien le pouvoir de convaincre que ces événements en fait comprenaient déjà. C'est vrai que la drogue a été un facilitateur assez important dans ce domaine. Ça c'est assez évident. Et tout à l'heure, tu me parlais aussi de ce financement des sound systems. On en a pas parlé. C'est vrai que la plupart des premiers sound systems.
Quoi, un scoop?
Mais c'est pas tant un scoop que ça. C'est-à-dire que pour la première fois, ils peuvent en parler. C'était l'avantage de faire ce livre 20 ans après, ou 15 ans, ou 10 ans après. C'est que pour la première fois, en gros, librement, certains sound systems aussi, certains membres de sound systems ont parlé du biz. Et donc de cette économie alternative qui leur a permis aussi de financer leur passion. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est abordé librement. Le but c'était d'aborder librement.
Merci de l'aborder librement ce soir sur Châteaumerie. Ouais.
Avant d'écouter un extrait d'un de tes lives que tu nous as ramené, on va rapidement aborder la soirée. The Famous pour
Don't Forget to Rave.
Don't Forget to Rave, voilà, tout à fait. On pouvait pas appeler ça Free Party, une histoire des histoires, parce que Free Party, c'est quand même gratuit, et il se trouve que cette soirée, elle est quand même avec un PAF le plus bas possible, mais avec un PAF tout de même, et qu'elle se trouve en salle, dans une salle
bien financement public.
Le Jardin Moderne.
C'était le Jardin Arène. Moderne. Donc le 27 novembre, effectivement, on organise une soirée pour la sortie du livre avec l'association La Goutte d'eau, dont la présidente est...
Oui, c'est moi.
Présente est ici.
Oui, pour nous, c'était important de l'organiser et de t'accompagner dans cette soirée. Donc.
De marquer.
Parce que La Goutte d'eau, elle a été créée justement en lien avec la Free Party. Donc, c'est finalement une continuité un peu de toute cette histoire depuis ces années. Et puis, donc, c'était important pour nous de le faire. Donc, au Jardin Moderne.
Donc avec 27... pas mal d'artistes quand même.
Ouais.
Avec pas mal d'artistes, on peut en parler.
On peut en parler. On peut aussi dire qu'il va y avoir une table ronde à partir de 18h30.
Ouais,
une
table
si
ronde. Effectivement.
Où on John ici présent va jouer.
Oui.
Ouais.
Et la table ronde, elle va présenter des acteurs qui sont présents dans le livre, ouais. et qui représentent plusieurs générations. Il va y avoir Jeff justement Spiral Tribe, Jeff 23.
Des petits jeunes.
Il va y avoir probablement Nicole. Il est pas signalé sur le flyer, mais il va y avoir dans la table ronde un membre, ouais, des Epsilon qui va parler aussi du voyage. Il va y avoir Pi des Mandragore. Donc Sound System, un Sound System actuel de Bretagne, et Mintou qui a participé à la création de Cagnard et qui était présente aussi sur la création des Occupés, etc. En 93, au tout début, hein, on va dire. Et après, il y a tous ces artistes, donc Sogum, ouais, qui fait le warm-up. Et puis, même pas mal, on l'a dit tout à l'heure, Jeff 23.
Il va y avoir Jeff.
Drone,
donc de Epsilon.
Nicole, qu'on a déjà eu le loisir de voir sur Rennes.
Retombée de la nuit sous le nom Piano Cantatique.
Mais sans son piano.
Mécanique Cantatique.
Et puis pour finir, notes
des galettes bretonnes,
c'est ça. Ok, bah merci à vous. Avant d'entendre un extrait de ton live, Bob, t'as une petite actualité rapidement à aborder, vite fait.
Oui. Bah vous rappelez que il y a le vernissage vendredi soir d'une expo au chantier, une expo qui réunit sur des cadavres exquis les artistes Mioche, Fesla et Ringard, et je mixerai là-bas un petit peu aussi.
Un petit peu de pub.
Oui, un petit peu de pub. L'ami Mioche aussi mixera, l'ami Fesla, donc, et qui d'autre? Et notre ami Larsen. Donc, ça sera, en gros, va y avoir de l'électro-tropical, de la jungle, de la techno, des trucs sales. Enfin, ça va être un joyeux bordel. C'est à partir de 19h au Jardin Moderne, vendredi 19.
Aussi au Jardin Moderne?
Non, c'est pas au Jardin Moderne, parce que...
au chantier. Ah,
c'est ben,
chantier.
C'est n'importe quoi, cette d'accord. émission.
Oh, c'est bordel.
Redis-nous la date.
Le 19
novembre.
Je sais
plus quand c'est, moi. C'est le 19 novembre.
19 novembre au chantier et 27 novembre au Jardin Moderne.
Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine pour une spéciale No Wave, il me semble.
Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup.
Ciao.
Merci, à bientôt.
Bonne nuit.
Au revoir.
Thank you. redoutables catcheurs mondiaux les plus réputés.
The Rumble Theory numéro 3 déboule à Rennes le 19 et 20 novembre. Ça va saigner. 5 assauts rennaises, Kerbouiboui, Garage Sous, Bébé Brusque, KDB, Interzone et l'Atelier du Bourg s'empoignent à coups d'uppercut folk, de crochet punk ou de direct électro-expérimental et se défient sans mauvais gestes et avec style. Retrouvez à la bascule le 19 le champion de la folk azimutée Mileson William, Cam 10, virtuose de la 12 corde, No Pilot et son électro-punk survolté, et enfin Le Hier qui vous proposera la rencontre hardcore flamenco.